Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Moi, en tant que Française, je me disais, oh là là, je vais avoir un trou de 2 ans dans mon CV. C'est vraiment cette réflexion qu'on se fait. Et maintenant que je travaille dans une structure, déjà que je suis dans une ville cosmopolite et qu'en plus je travaille dans une structure internationale, ça me fait sourire de réaliser à quel point j'ai toujours, je pense, une vision très française du parcours professionnel, qui doit être un parcours linéaire, extrêmement logique, où on ne valorise pas forcément, il faut le dire, traditionnellement, la prise de risque ou les changements de carrière.
Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Esra Tat. Originaire de Savoie, Esra a toujours été passionnée par l'écologie. Dès sa dernière année d'études, elle cofonde sa première entreprise, un bureau d'études en rénovation écologique. En 2015, Esra et son mari Camille décident de voyager à travers plusieurs pays d'Asie. Pendant 2 ans, ils traversent de nombreux pays, comme l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Japon. Actuellement, Esra est basée à Bruxelles, où elle exerce en tant qu'Associate Director chez Zero Waste Europe.
C'était très formateur et c'était très bien pour moi de partir à ce moment-là, parce que ça fait quand même quelques années que les discours en France me rendaient triste. Et en fait, c'est bien d'exister ailleurs en tant que musulman, de se voir et de se vivre dans son identité musulmane ailleurs, où peut-être les gens ont moins d'a priori, ou ils ont plus d'a priori dans des pays musulmans.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Esra.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Très bien, alhamdoulilah. Très bien, cette fin de mois d'avril.
Bah écoute, super. En ce mois de Ramadan béni, j'espère que tout va bien pour toi et ta famille. Esra, pour commencer, je te propose de te présenter assez brièvement, nous dire un peu qui tu es.
Oui, c'est toujours un exercice
difficile.
Oui, c'est très difficile. Surtout que j'essaie toujours de ne pas me présenter sous le prisme professionnel. Mais là, on parle aussi de notre parcours professionnel. En résumé, je suis franco-turque, originaire de Savoie. Je suis maman de 2 enfants. Et je parle de la Savoie parce que ça, avoir grandi dans un cadre de carte postale, je pense que ça a eu un effet sur tout mon parcours professionnel. Donc, en résumé, je dirais un parcours autour de des questions d'écologie, de ressources, à travers l'entrepreneuriat, le voyage aussi, et plus récemment, l'univers du lobby européen. Voilà, de manière extrêmement succincte, ce que je peux dire.
Trop bien. Bah, écoute, ce sera super intéressant. J'étais en train de lire, avant notre interview, je regardais un petit peu les articles. J'ai vu un article justement sur Al Jazeera qui parle un peu de... où tu décris un peu un de tes voyages. Je crois que c'était au Pakistan. C'était super intéressant. Tu as pas mal voyagé, mais on en parlera un peu plus tard. Donc actuellement, tu travailles chez Zero Waste. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment est-ce que tu fais pour en arriver à où tu en es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, en commençant par ton éducation?
Oui. Alors, moi, j'ai une formation en management et gestion des entreprises, donc un DUT et puis ensuite un master à Grenoble. Donc, très tourné. En fait, on a été formé pour gérer des organisations. Ensuite, on avait certaines spécialisations qui ont fait que certains allaient plus vers les RH, d'autres vers les finances, etc. Mais voilà, à la base, je suis formée pour gérer des projets et des organisations. Donc, une formation assez pluridisciplinaire. Et quand je vois un peu ce qu'ont fait mes collègues de promo, je crois qu'on n'est pas 3 à avoir pris la même direction professionnelle. C'est dire à quel point cette formation un peu trop polyvalente. Je dis trop parce qu'en fait, quand on sort de là, ce n'est pas comme être ingénieur. En fait, on peut aller dans plein de directions. Nous, je dis nous parce qu'on était un petit groupe à avoir les mêmes envies. On a profité, en fait, avec un ami de promo qui est devenu ensuite mon mari, mais entre-temps, un associé. On a décidé de profiter de notre dernière année d'alternance pour créer, en fait, une entreprise sur les questions d'efficacité énergétique. Plein de raisons derrière ça, le parcours professionnel, même de stage sur ces questions-là. Mais voilà, ce qui était clair, c'est qu'on voulait mettre ces compétences, disons, de gestionnaire au service de l'écologie et de l'environnement. On a
OK.
bénéficié d'une voilà. En fait, on a bénéficié d'une subvention. On a déposé un dossier en tant qu'alternant. On a pu déposer un dossier de création d'entreprise dans l'entreprise dans laquelle on était, qui est Schneider Electric. Donc ça, c'est le début du parcours. Et en fait, ce qui nous intéressait, et moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la question de la gestion des ressources, mais au sens comment on fait pour gaspiller moins. Ce qui aujourd'hui est très, très, très à la mode, notamment avec le zéro déchet. Je pense que c'est beaucoup plus mainstream qu'il y a quelques années, mais l'efficacité énergétique, c'est un peu la même idée. Comment on fait pour répondre à nos besoins, mais en gaspillant beaucoup moins de ces ressources qui sont pour la plupart des ressources finies. Donc ça, c'est un peu le point de départ et je dirais même un peu le fil conducteur. Et donc, on a commencé à travailler sur la rénovation écologique et puis, en fait, ce qui pollue aujourd'hui, notamment quand on regarde en France, en termes d'énergie, d'eau, etc. Effectivement, il y a l'agriculture, il y a le secteur bâti. Mais ce n'est pas les constructions nouvelles parce qu'en fait, le patrimoine national, il se renouvelle qu'à hauteur de 1% par an. Donc, en fait, ce qui veut dire que tout ce qui pollue vraiment, c'est les bâtiments existants. Donc, on est parti sur de la rénovation écologique, énergétique. Et puis, bon, là, je commençais un peu à voir les problématiques sur la gestion de l'eau, mais aussi la gestion des déchets. Donc, voilà. Pendant 7 ans, on a travaillé dans ce domaine-là. On était une petite équipe. Donc, mon conjoint qui était associé, on a rencontré d'autres entrepreneurs qui, eux, travaillent sur la construction écologique. On a commencé à faire des projets d'habitat groupé, etc. Et pour ceux qui connaissent l'îlot des Combes, qui est une ferme en permaculture en Bourgogne.
Oui, avec Jean-Philippe,
Exactement. Donc, Jean-Philippe
que j'ai
était notre
interviewé
associé.
d'ailleurs.
Voilà. Donc Jean-Philippe
D'accord.
travaillait aussi lui dans la partie construction et puis on a fusionné ensemble et
D'accord.
ce qui a donné lieu à TerraCité. Donc on a travaillé ensemble à peu près 4-5 ans et nous on avait commencé auparavant en rénovation. Donc cette question en fait elle a été toujours centrale. Je sais pas si Jean-Philippe en a parlé, mais on a aussi un peu rechercher du côté des modes de financement, parce que ce qui nous intéressait, c'était aussi de travailler sur une autre forme de finance. La construction, c'est très, très consommateur en fonds propres. Et traditionnellement, ça passe par le prêt bancaire. Donc, nous, on a cherché d'autres modalités pour travailler sur ces projets d'éco-habitat, en travaillant pour des maîtres d'œuvre type logement social ou logement conventionné. Donc, c'était vraiment, ça a été, enfin, pour moi, cette année absolument épuisante, mais très très formatrice. Et je lui dis souvent, moi j'ai un esprit entrepreneurial, mais je ne me serais pas forcément lancée toute seule. Mais voilà, on a un peu commencé, en tout cas nous, notre première structure qui s'appelait Ressources EO, qui était ce bureau d'études et de maîtrise d'œuvre en rénovation énergétique et écologique. On l'a commencé un peu comme un projet d'études en fait.
OK. C'était pour ta fin d'études, vous deviez faire une alternance et vous l'aviez fait dans cette entreprise.
En fait, non, on a fait notre alternance chez Schneider Electric. Donc, moi, j'étais
OK.
en gestion de projet, etc. Donc, vraiment rien à voir avec notre projet. Sauf que c'est là où donc, mon conjoint Camille a appris, je ne sais pas par quel moyen, qu'en fait, en tant qu'alternant, effectivement, on est considéré comme salarié. Et donc, là, il y avait une cellule d'essaimage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les essaimages, c'est souvent des grandes entreprises qui permettent à leurs salariés de créer leur propre entreprise. Bon, pour eux, ça leur donne droit à des défiscalisations, tout simplement. Et c'est aussi un accompagnement des salariés. Et donc, il y a tout un accompagnement qui est fait par la cellule d'essaimage au sein de l'entreprise. Et parfois, en prime, il y a une subvention, une dotation pour aider au démarrage. Et nous, c'est ce qui s'est passé. On était alternants, donc on était salariés. Et donc, on a eu droit à la cellule d'essaimage qui était ravie de notre projet. Ça faisait un lien avec le métier d'électricité parce que c'était l'efficacité énergétique. Et donc, voilà. Donc, on a été accompagnés pendant toute la durée de notre apprentissage là-bas. Mais rien à voir avec le contenu de notre apprentissage. Moi, j'étais en gestion de projet, contrôle de gestion, Camille aussi, sur deux sites différents. Et on a créé un bureau d'études et une maîtrise d'œuvre sur les questions d'efficacité énergétique. À
OK.
la fin de cet accompagnement, voilà, on a eu une dotation à l'époque de 32 000 euros.
Et du coup, cet intérêt pour ce secteur, toi personnellement, c'était venu assez tôt dans tes études ou c'est venu un peu sur le tard
Oui, alors c'est vrai que je déroulais un peu longuement le fil qui m'a ramené aux déchets aujourd'hui, mais en fait, quand je disais tout ce qui est gestion des ressources, je le disais brièvement en introduction, moi j'ai vraiment grandi dans un cadre de carte postale et aussi avec des parents qui sont très attachés à la terre. Ils
Tu as
sont pas
grandi
forcément
où? C'était Grenoble, ça.
en Savoie, non, non, dans une petite ville qui s'appelle Modane.
Ok.
C'est la commune frontalière avec l'Italie et c'est surtout la commune qui est au pied de pistes de ski, en fait, au pied des stations. Et donc, voilà, moi, mes mercredis après-midi ou mes samedis après-midi, c'était de prendre le vélo et d'aller me balader dans le coin ou d'aller faire des randos. Et d'ailleurs, je le dis souvent un peu sur l'ironie, mais quand je suis arrivée à Grenoble pour faire mes études et que j'ai rencontré des vrais urbains, des gens qui avaient grandi à la ville, bah, je leur demandais toujours, mais vous faisiez quoi le samedi après-midi? Parce que je n'arrivais pas à imaginer bah, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a grandi en ville et parfois souvent dans des quartiers très bétonnés. Et encore, Grenoble, c'est la ville entourée de montagnes. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles, ça pose d'autres questions. Donc, d'où est venu cet intérêt? Je pense qu'il y a une grosse part d'éducation. Mes parents sont deux immigrés turcs, l'un vient de la montagne, l'autre vient de la steppe. Il y a vraiment ce goût d'être dehors. Donc en fait, moi, mon terrain de jeu, c'était juste dehors, c'était pas un petit jardin, etc. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là, il y a le cadre. Et puis la foi aussi, en fait. Quand j'étais enfant, moi, ce qui me rattachait beaucoup, en fait, au cours, à la mosquée turque, les cours d'arabe qu'on prenait, il y avait une petite écriture, alors je vais traduire ça très mal, mais là on faisait nos ablutions et c'était écrit le gaspillage vient du diable. En gros, le gaspillage c'est très très mal, quoi. Et en fait, c'est un truc qui s'est imprimé en moi. Et je me rappelle même quand voilà, ces premières fois où l'imam nous disait, oui, même si vous faites vos ablutions dans une rivière, il faut économiser l'eau, etc. Je pense que ça s'est un peu imprimé, mais de manière très positive, parce que je voyais pas la peur de gaspiller, mais de me dire, bah voilà, c'est des choses, voilà, c'est un dépôt divin, c'est une amana, il faut qu'on en prenne soin. Donc je pense qu'il y a eu ce mix-là. Et je pense que les amis aussi que j'ai eu par la suite, on s'est tous toujours retrouvés autour de la nature, de faire des choses dans la nature, d'aller camper, etc. Donc ça a été très fort. Et ensuite, pourquoi l'efficacité énergétique et ensuite ce type de ressources-là? Disons que mon approche de l'écologie, et je pense que c'est l'approche de l'écologie de beaucoup de personnes, c'est d'avoir un confort de vie qui soit agréable on va dire en lien avec nos besoins d'aujourd'hui, sans être dans la consommation à outrance. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, même nos besoins qui semblent, voilà, quand tu vis chez toi, tu allumes tes lumières, tu éteins, tu utilises ton four, etc., tu n'as pas l'impression en fait de gaspiller. Et en fait, par le design même des choses qui nous entourent, il y a une mauvaise utilisation des ressources. On entend beaucoup de l'obsolescence programmée. Il faut se dire qu'aujourd'hui, même les bâtiments eux-mêmes ont une forme d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des bâtiments qui sont faits pour être pas là pendant 200, 300, 400 ans. On sait qu'ils vont être détruits, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. Alors, j'avais fait un stage juste avant mon alternance chez un bailleur social. Et il se questionnait beaucoup sur comment faire du bâtiment qui soit pérenne, durable et qui soit à faible charge pour les locataires. Et c'est là un peu, j'avais un peu découvert cette notion, c'est qu'en fait, le coût d'usage d'un bâtiment, il est vraiment conséquent. Et en plus, quand tu travailles sur un public social, tu as vraiment cette conscience qu'il faut que la facture d'électricité soit très basse et ce n'est pas forcément lié au comportement de consommation. Donc voilà, après, je m'intéressais à d'autres questions comme l'agriculture, etc. Enfin, vraiment tout ce qui nous entoure dans nos modes de vie. Et je pense que c'est un peu l'opportunité qui a fait qu'on arrivait chez Schneider Electric. Électricité, on a été très sensibilisés à l'efficacité énergétique. C'était au début, on parlait du Grenelle de l'environnement. Il y avait des prêts à taux zéro qui se mettaient en place sur la rénovation. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et puis bon, moi, j'ai grandi avec un père maçon. Donc l'univers du bâtiment, du chantier, j'ai un peu grandi dedans. Donc ça ne me paraissait pas totalement voilà, loin. Donc, mais voilà, ça a été quand même un peu l'opportunité. Je pense que la problématique de l'eau m'intéresse beaucoup. J'aurais pu, si j'avais fait un autre parcours, aller sur cette question-là aussi.
Ok.
Donc voilà comment on en est arrivé là.
Ok, donc une expérience de 7 ans, c'est assez conséquent. Tu m'as dit d'entrepreneuriat, en commençant par Ressourceo, puis vous avez changé le nom, c'était une autre entreprise, tu
En
as
fait, on a fusionné parce que nous, on avait notre structure, on faisait de la rénovation, et puis bon, bah, Jean-Philippe lui faisait de la construction. Donc, on a fusionné, puis on a mis tout ça sous le même chapeau, Terracité. Et puis, on allait quand même un peu plus loin parce que l'idée, c'était vraiment de faire aussi l'expérimentation sur des nouveaux modèles économiques, même pour faire de l'habitat participatif, abordable. Parce que voilà, au fur et à mesure, moi j'avais cette fibre un peu logement social parce que j'avais fait un stage et que je connais très bien la problématique du logement social. Voilà, à un moment donné, on se rend compte que si on veut faire du bâtiment écologique, il faut peut-être aussi revoir les modèles économiques pour le faire parce qu'autrement, on n'arrive pas vraiment à diminuer les coûts. C'est pour ça qu'on a fait tout un travail sur le prix du foncier, sur même les modes de financement hors prêt, etc. Mais bon, ça a été beaucoup d'expérimentation, et puis je le dis souvent, le problème de l'expérimentation, c'est que c'est pas forcément rentable, parce que chaque nouveau projet est un nouveau projet avec ses difficultés. Donc voilà, donc d'un moment, on s'est retrouvé face à des difficultés financières importantes, mais je veux dire pas qui était assez en lien avec le fait qu'on avait à chaque fois innové, hein, mais qu'on n'avait pas forcément un modèle ultra réplicable, en fait, tout simplement. Et puis, il y a un truc aussi contextuel. Je sais que quand on n'est pas dans le milieu, qu'on ne travaille pas sur l'écologie, on ne se rend pas compte, mais il y a eu, quand les Verts ont quitté le gouvernement, quand on a un peu détricoté le Grenelle de l'environnement, du jour au lendemain, en fait, tout le discours sur, je ne sais pas si toi tu t'en rappelles, mais sur
Pas trop, non.
l'efficacité énergétique, voilà, même l'ADEME faisait des publicités à la télé sur voilà, faites rénover, l'isolation, etc. Et du jour au lendemain, en fait, ça s'est arrêté net. Les changements de priorité dans les communes, et donc changement de priorité sur nos projets à nous. Donc du jour au lendemain, c'était déjà difficile de convaincre, mais là, ça devenait absolument impossible. Et nous, on était une petite structure de maximum, on a été une vingtaine de personnes, mais d'une dizaine de personnes.
C'est bizarre parce que j'ai
Voilà.
toujours pensé que enfin, ça a toujours été en croissance, l'écologie depuis 15 ans.
Ça l'est. En fait, je pense que si on regarde la courbe, effectivement, sur, on va dire, 20 ans, il y a une progression, mais il y a eu une vraie chute à 2008 et puis 2012, en fait, au moment des deux crises, en fait. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Effectivement, mais en fait, à un moment donné, les maîtres d'ouvrage, donc par exemple ceux qui faisaient du logement social type bailleurs sociaux, bah, entre faire construire écolo, performant et faire construire au minimum de la réglementation, eh ben, c'était le deuxième choix qui était favorisé, et ça, c'était pas du tout ce que nous on faisait. Donc, voilà. C'est une vision un peu court-termiste, mais voilà. En tout cas, nous, ça a été. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris, qu'on a partagé. Aujourd'hui, il y a des structures qui continuent à faire le même type de projet, peut-être moins grand ou dans d'autres régions. Donc, non, non, ça se poursuit. En tout cas, nous, à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'on arrête, et c'était en ce qui nous concerne au début 2014. Parce que là, en fait, on passe plus de temps à essayer de faire tourner la boutique que de faire des projets vraiment qui nous intéressent, et qui sont rentables, en fait, et qui sont juste équilibrés financièrement. Donc voilà, ça s'est arrêté là en 2014.
À la fin, c'était une grosse déception de terminer l'aventure ou vous étiez plutôt satisfait de l'expérience?
En demi-teinte, je dirais. Alors, sur le coup, ben, une énorme un sentiment de vide, je pense. Un soulagement, un sentiment de vide, et puis une forme de culpabilité, parce qu'on a quand même embarqué beaucoup de personnes avec nous sur ce projet. Il y a quand même des gens qui ont investi, et donc on se sent extrêmement responsable. Et voilà, donc il y a cet aspect-là un peu, voilà, de responsabilité, comme on dit en anglais, de accountability, où on voulait vraiment être. Oui, accountable, responsable de ces engagements-là. Après coup, non, une grande fierté de se dire que voilà, les quelques projets qui existent et qui sont sur pied sont, enfin, notamment l'un d'eux fait vraiment office de modèle. Enfin, à l'époque, faisait office de modèle. On a été primé. Là, je repensais au fait qu'on a reçu des prix. Bon, c'est pas forcément une référence en soi, mais le MEDEF, par exemple, sur le type de projet qu'on faisait, en disant, bon, on n'y croit pas trop à ce genre d'entreprise sociale, mais finalement, ça a l'air de marcher. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui allait au-delà de nos quelques projets, il y avait cet aspect-là. Et ensuite, comme je disais, un peu un sentiment de vide, parce que nous, là, on a fait ça dans la continuité de nos études, et ça a été du non-stop pendant 6-7 ans, en fait, y compris les week-ends, c'était un peu un travail passion. Et donc, du jour au lendemain, quand ça s'arrête, bah, il y a une espèce d'énorme perte d'identité quelque part, parce qu'on est entrepreneur. On règle on gère des soucis tous les jours, on est dans le développement de notre entreprise, etc. Et en plus, dans notre cas, c'est une entreprise sociale agréée, donc avec un certain type de contraintes et d'engagement, donc. Et du jour au lendemain, on devient, entre guillemets, plus rien. Et ça, je pense que c'est très fort, c'est ça que je te disais au début, j'essaie de pas me présenter par seulement le prisme professionnel, parce qu'en fait, on a tendance à beaucoup se réduire à ce qu'on fait au niveau professionnel. Et donc, pour plein de raisons, le professionnel s'arrête. Ça peut être très difficile. Donc, voilà. Donc, moi, il y avait cet aspect-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de période de flottement après, ou une très courte période de flottement, où on était basé en Rhône-Alpes, on est parti, on est monté à Paris, comme on dit. Moi, je suis allée faire une formation sur d'autres sujets qui m'intéressaient. Camille, pareil. Et puis, entre-temps, j'ai monté une association avec trois autres femmes qui s'appelle WeTalk, qui s'appelait, ce qu'on a arrêté à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, donc c'est en 2014 aussi, où un peu partant du fait que, voilà, en fait, il y a d'autres modèles de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir quand on est femme? Et puis, elles sont toutes ces femmes différentes qui font des choses hyper chouettes qu'on ne voit pas forcément. Donc, il y avait toute une réflexion, parce que moi, j'ai commencé, je suis née en fin d'année, donc. On a monté notre première entreprise. J'allais avoir 23 ans, j'avais 22 ans. Et quasiment les X années d'entrepreneuriat, très souvent quand j'étais avec Jean-Philippe, qui a 10 ans plus que moi, il y a eu plusieurs fois comme ça dans des rendez-vous où j'étais prise pour sa secrétaire ou son assistante. Et c'est. Bah, voilà, il y a toute cette dimension aussi d'être jeune femme entrepreneur. Tout le sexisme qu'il peut avoir, et là je parle d'un milieu en plus très très masculin, j'allais dire vieux, mais plus âgé, dans le monde de la construction, l'immobilier, etc. Donc voilà, j'avais envie de me retrouver un peu, comme on dit aujourd'hui, dans un cercle de sororité avec d'autres femmes, mais ça m'intéressait pas d'aller vers des femmes qui soient un peu, je donne souvent cet exemple, un peu l'entrepreneur, ou la big boss, la Sheryl Sandberg. Grande école, grosse entreprise, Sheryl Sandberg de Facebook. Moi, j'avais envie
C'est
d'aller voir d'autres femmes.
Facebook.
Voilà, exactement. J'avais envie d'aller voir d'autres femmes qui font sur le terrain des choses chouettes et qui, entre guillemets, qui représentent une vraie pluralité de profils, des femmes de la campagne, des femmes qui sont dans des situations de, par exemple, d'handicap, qu'on ne présente pas vraiment comme des rôles modèles, etc. Et c'est un peu la genèse de WeTalk, parce qu'en discutant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à être un petit peu fatiguée de voir. Ces mêmes histoires de success story, un peu de couverture de magazine, quoi, qui correspond pas à la réalité. Et là, je te parle de 2014. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un discours qui a complètement radicalement changé sur cette question de la réussite femme. En tant que femme, voilà, il y a pas mal de choses qu'on voit aussi un peu dans la presse féminine, même le type de corps aussi qui sont représentés. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais voilà, 2014, c'était un peu le moment de prise de conscience. Et donc, pendant 1 an, on a monté des événements, etc. L'association a perduré. Sauf que, voilà, en faisant un petit point avec Camille, moi, déjà, cette thématique m'intéressait, mais je me sentais un peu m'éloignée de la question de l'environnement, de l'écologie, qui est quand même ce qui me fait vraiment vibrer, enfin, ce qui me fait vibrer encore plus, j'ai envie de dire. Et donc, on a fait une petite pause avec Camille et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on a remis sur le tapis cette idée de partir voyager, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est un peu là qu'est arrivée la question du voyage. Il faut savoir que, pour refaire le lien avec là où je travaille aujourd'hui, toute cette question des ressources, ça revenait comme ça un petit peu tout le temps. Et quand j'étais sur Paris, j'ai hésité à me relancer tout de suite sur quelque chose, notamment lié aux déchets, parce que je connaissais très bien les gens dans le milieu. Qui travaille notamment sur les questions des zéro déchet en France. Et en fait, on s'est dit, mais là, on est encore dans une espèce de fuite permanente de projet. Voilà, on a la chance de pouvoir faire une pause et faisons-la. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'en fait, là où Terracita à l'époque, notre première entreprise, gros projet, allait vers la fin. En fait, en 2013, on est parti faire notre pèlerinage, tous les deux, donc fin 2013. Et donc voilà, quand on est revenu, je me suis dit, voilà, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour vraiment réfléchir à ce que je veux faire. J'ai eu cette opportunité en rencontrant mes trois autres compères de WeTalk, de lancer WeTalk. Mais voilà, à un moment donné, on se dit, mais non, je m'étais promis que j'allais faire une pause au retour du pèlerinage, et qu'est-ce que je fais? Et c'est là, on est parti en voyage sac à dos, par voie terrestre et par voie maritime. C'est
C'est
ça
la première fois que vous
le
voyagez.
Non, 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 on est depuis toujours en fait ensemble. Déjà, on s'est rencontrés, on s'est vraiment parlé en fait pendant les études à l'option sport, en faisant une randonnée. Donc, il y a vraiment ce côté, ce goût outdoor qui nous lie dans notre couple. Non, les premiers voyages qu'on a faits, c'était des voyages à vélo sur plusieurs semaines.
Bien en France.
On a fait en France, ouais. France, Italie, Suisse, mais jamais très très loin parce que l'idée c'était aussi de prendre le train, y aller ensuite au point de départ. Donc on a fait des voyages à vélo en tandem, en ville séparée. Et puis on a voyagé, moi je suis d'origine turque, donc on est allé en Turquie pas mal, mais aussi en Mongolie l'année de notre mariage. Donc il y a quand même, on
Sur les
savait qu'on
steppes.
avait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, step avec l'idée de voir les premières traces des peuples turcs qui se trouvent en Mongolie, en fait. Donc voilà, donc il y avait un ça, là, on était parti à cheval. Parce que bon, le vélo en Mongolie, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est extrêmement courageux. Mais voilà, en tout cas, quand on est parti en 2015, donc on est resté à peu près une année sur Paris, puis début 2015, on est parti. Je précise qu'en fait, moi, je serais probablement pas partie, je me serais encore engagée dans un, deux, trois autres, quatre, cinq autres projets. Mais c'est vraiment Camille qui a su dire là vraiment stop parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est soit on le fait maintenant, soit on le fait plus tard, mais dans d'autres conditions. Et maintenant qu'on est parents, je sais qu'on va repartir voyager, Inch'Allah, mais ce sera très, très différent. Là, on est parti, sac à dos, avec une seule direction, l'Est. On n'avait pas le projet de faire le tour du monde, on n'avait pas une liste de pays fantasmés. Moi, je voulais beaucoup aller en Asie centrale, dans tous les stands. Et Camille n'était pas contre. Et donc voilà, c'est un peu comme ça. Lui, je pense qu'il était plus attiré par l'Amérique latine, moi beaucoup moins. Et puis en termes de saison, vu qu'on est parti en février, ça se prêtait plus de partir vers l'Asie centrale. Donc voilà,
Okay.
deux années, comme tout voyage, assez incroyable.
Deux années de voyage, d'accord.
Deux années, oui. Ouais. Encore après, c'est que moi, quand je suis partie, je disais pas plus d'un an parce que j'avais un certain nombre de craintes, voilà, professionnellement déjà de dire voilà, tu disparais pendant 2 ans, tout ton réseau part avec. Enfin, c'était assez. Aujourd'hui, ça me fait sourire quand je pense à ces considérations que j'avais. Et puis, j'avais peur de m'ennuyer.
Ouais.
C'est incroyable. J'avais peur de, ouais, voilà, de m'ennuyer en me disant bah là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, voyager. Le fait de voyager, ça te remplit ta journée. Voilà. Puis nous, on est partis avec l'idée d'être chez l'habitant en couchsurfing ou dans notre tente qu'on a achetée en cours de route.
Couchsurfing, c'est quand on est
C'est
invité, enfin, on dort chez les gens.
un échange de services, donc c'est un hébergement gratuit au sein d'une communauté. Donc, quand
Oui.
je dis échange de services, c'est pas moi qui donne et qui reçoit. Enfin, c'est moi qui donne et qui reçoit, mais pas de la même personne. C'est-à-dire que tu accueilles et puis tu es accueilli par d'autres personnes. Donc,
Oui.
nous-mêmes, moi, quand j'étais étudiante ou quand on était étudiant, on accueillait des voyageurs en couchsurfing. Enfin, j'étais en coloc, on accueillait des gens. Donc, j'ai toujours accueilli en couchsurfing. Et puis là, c'était un peu le moment de nous partir. J'avais un peu peur que Airbnb ait vraiment pris trop le dessus dans beaucoup de pays, mais en fait, non. Ça a extrêmement bien fonctionné et voilà, on est parti on a pris beaucoup le bateau. Je ne vais pas te faire tout le parcours, mais pour moi, le vrai début, ça a été quand on a traversé la frontière à pied entre la Turquie et l'Iran. Parce que juste avant, tout ce qu'on avait traversé en bateau, Grèce, Italie, Turquie, enfin, je connaissais. Mais là, l'Iran, c'était le début du voyage parce qu'on arrivait dans un pays où je pouvais lire. plus ou moins, mais je ne comprenais rien. Et puis, ouais, c'était le début de l'aventure, quoi. Et ça a continué comme ça pendant 2 ans. On a traversé les pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, etc. Et pour en revenir à l'article que tu évoques sur Pakistan, en fait, on ne s'était pas donné une direction. Pour nous, ce qui était clair, c'est qu'on avait envie de voyager d'une certaine manière, qu'on n'allait pas se forcer à prendre l'avion, et qu'au contraire, on voulait vraiment continuer par voie terrestre et maritime. On avait vaguement en tête de se dire, bah, peut-être qu'on irait bien au Japon, peut-être qu'on irait bien là, mais sans vraiment destination arrêtée. Et tant mieux, parce qu'en fait, on a rencontré au tout début de notre voyage un photographe qui, lui, avait passé pas mal de temps au Pakistan il y a quelques années, qui connaissait très bien le pays. Et puis, un Japonais qu'on avait croisé au Tadjikistan, qui nous a reparlé du Pakistan. Et là, on s'est mis en tête absolument d'y aller. Et voilà, et on n'a pas du tout regretté. Ça a été un peu une épopée, parce que pour tous les gens qui voyagent, savent que obtenir des visas, c'est vraiment ça prend énormément de temps. Et en fait, pour le Pakistan, bah, au final, on a dû envoyer nos passeports depuis le Japon en France pour pouvoir obtenir des visas, ce qui n'est pas très légal, je crois. Qui est un peu dangereux. Un document d'identité second, parce qu'on est notre nationalité l'un et l'autre, donc on n'était pas non plus sans papier, mais voilà, normalement ça ne se fait pas. Et voilà, en fait, on est revenu tranquillement du Japon et on a passé finalement 6 mois au Pakistan,
Ok,
beaucoup
incroyable.
dans les montagnes. Ouais, beaucoup dans les montagnes. On a fait énormément de randonnées, et voilà, enfin, la randonnée en montagne au Pakistan, c'est très différent, dans le sens où, en fait, après le 11 septembre, toute l'industrie du tourisme au Pakistan s'est effondrée, mais à l'origine, il y a vraiment une industrie, il y avait une industrie de l'alpinisme, etc. Donc, il y a énormément de gens qui parlent évidemment parfaitement anglais, mais il y avait des guides, en fait, dans les années 70, des guides de randonnée, à l'époque où l'Afghanistan pré-guerre de 79, il y avait aussi beaucoup d'Européens. Il y avait la route des hippies, en fait, qui venait d'Europe jusqu'en Inde et qui passait par l'Afghanistan et le Pakistan. Donc vraiment, c'est des pays qui ont cette histoire-là. Mais du coup, ça s'est, comme je disais, effondré. Sauf que bah, ces gens-là continuent à vivre dans les montagnes. Donc il y a plein de chemins. Il y a énormément de paysages. Enfin, il y a plus de... J'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de sommets à plus de 4 000, 5 000, 6 000 mètres d'altitude, c'est quand même incroyable. Enfin, le deuxième plus haut sommet au monde est au Pakistan, en fait. Il y a l'Everest qui est au Népal, et puis il y a le Ketu qui est là. Donc c'est assez
Mais beaucoup
voilà,
de gens
c'est
viennent
assez
pour l'alpinisme. Enfin, en tout cas, c'est
bah,
souvent des professionnels surtout, mais enfin, des gens qui connaissent quoi, pas trop, peut-être moins de tourisme.
ouais, il y a très très peu de touristes, j'ai envie de dire backpackers, en fait, tout simplement parce qu'en fait, c'est assez difficile d'accès. Nous, on a quand même dû avoir une lettre d'invitation d'un Pakistanais pour pouvoir y aller. Et c'est vrai que, bah, dire, bah, faut connaître quelqu'un qui vit là-bas, en fait, qui vit au Pakistan. Et nous, en fait, c'est jusqu'au... Vraiment, c'est un peu les histoires de fou de voyage, mais quand on était au Kyrgyzstan, on était en couchsurfing chez un Singapourien. Qui en fait qui à l'époque travaillait au Japon, et en fait au Japon il travaillait avec des Pakistanais, et quand on était au Japon on allait rendre visite à cet ami de notre hôte du Tadjikistan, et en fait on est resté en contact avec lui, et quand on a voulu aller au Pakistan, c'est lui qui nous a aidés avec une lettre d'invitation avec sa famille au Pakistan. Enfin, vraiment, des
Trop
trucs
bien.
absolument lunaires. C'est comme quand on a voulu aller en Russie, on a dû avoir une lettre d'invitation, puis que quelqu'un qu'on ne connaissait pas en Russie nous envoyait via notre hôte, Couchsurfing, qui a fait un appel sur les réseaux sociaux. Enfin, donc, il y a vraiment, c'est assez incroyable. Et voilà, du coup, le Pakistan, aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'accès, mais à l'époque, ça l'était. Bon, là, ça, c'est un peu les choses sont un peu plus redevenues difficiles depuis quelques semaines, mais n'empêche que c'est un pays qui est pas plus dangereux qu'ailleurs, dans le sens où c'est immense. Donc, c'est un peu comme si voilà, il se passe quelque chose à Nice. Si vous habitez en Bretagne, vous êtes dans le même pays, mais vous n'êtes pas forcément directement concerné. Donc, c'est un peu pareil. De toute façon, toutes ces zones-là sont interdites aux étrangers. Nous, on a été dans des endroits.
C'est dans l'ouest qui est dangereux, la frontière avec l'Afghanistan, il me
Bah, en
semble.
fait, C'est là où le gouvernement va faire beaucoup plus attention à effectivement ne pas avoir d'étrangers. C'est pas parce que c'est dangereux, mais c'est parce qu'ils sont plutôt partisans du risque zéro. Parce que, voilà, le Pakistan est très conscient de la mauvaise presse que le pays a au niveau international. Aussi parce que, voilà, avec le fait que Ben Laden soit là-bas, enfin, il y avait quand même pas mal de choses autour du 11 septembre qui ont fait que ça a été très, très difficile pour le tourisme au Pakistan. Et donc, du coup, c'est vrai que le long de la frontière iranienne et de la frontière afghane, c'est plus difficile d'y aller. Mais voilà, nous, on y était. On était côté très proche de l'Afghanistan. Nos amis pakistanais d'Islamabad nous disaient n'y allez pas parce qu'eux-mêmes, en fait, en tant que personnes de la ville, n'irait pas dans ces endroits-là. On est allé à Peshawar, par exemple. Mais voilà, une fois que vous êtes à Peshawar, que vous vous fondez dans la masse, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Mais c'est vrai que ça sert à rien de prendre des risques complètement inconsidérés. On ne serait pas allé dans des zones ouvertement en conflit. Mais typiquement, on a été dans des zones frontalières avec l'Afghanistan sous escorte policière. Pas parce qu'il y avait un risque, mais parce que eux voulaient éviter, en fait, qu'il se passe quoi que ce soit. Mais voilà, ça ne dit pas grand-chose de ce pays-là. C'est un pays qui est vraiment immense en surface. Et puis, en termes de diversité culturelle, de langue, c'est absolument incroyable. On connaît beaucoup l'Inde, mais c'est vrai que le Pakistan, pour moi, a une part un peu plus spéciale, dans le sens où, dans le nord du Pakistan, il y a trois chaînes de montagnes qui se rencontrent. Il y a l'Hindoukouche qui est côté afghan, il y a le Karakoram. D'ailleurs, le Ketu est dans la chaîne du Karakoram qui est plutôt proche Chine. Et puis après, il y a l'Himalaya qui est côté Inde. Et ça donne des paysages absolument incroyables. Donc voilà, il y a un peu cet aspect-là. Et puis bon, nous, on y a pris beaucoup de plaisir, on s'est fait des amis. Donc voilà, donc le Pakistan et le voyage, je sais qu'on a été extrêmement privilégiés et j'aime pas du tout cette idée qu'aujourd'hui, là, on peut partir voyager. En plus, dans le cadre du Covid, ça paraît encore plus un fantasme. Mais nous, on a pu partir voyager parce qu'on était en bonne santé, parce qu'on a des familles personne ne dépend de nous. Donc il y a une espèce de privilège énorme. On avait les moyens aussi de partir. En tout cas, la manière avec laquelle nous on a voyagé, on était sur un budget extrêmement limité d'ailleurs. Comme je te disais au début, on était parti pour 1 an, puis finalement on a décidé de partir 2 ans. Et c'est juste qu'on a pris notre budget journalier, on l'a divisé par deux. On s'est dit, bah voilà, maintenant on voyage 2 ans. Ça a été un peu le.
Il y a des pays comme le Japon, tout ça, qui sont beaucoup plus chers
Ah
que
oui,
par
absolument.
exemple l'Asie, ou
Mais
jusqu'à
le.
certains pays d'Asie.
Oui, bah en tout cas, le Japon, on y est resté 3 mois. On est resté. Un mois et demi dans une famille. On s'occupait un peu de la maison et du jardin. Et puis ensuite, on a beaucoup fait ce qu'on appelle de camping sauvage, quoi. On dormait, on mettait nos sacs de couchage un peu sur des plateformes d'observation dans la ville, en fait. Donc, on a fait pas mal de camping sauvage comme ça.
Dans la
Mais dans
ville.
tous les pays. Ouais, dans la ville, ouais. Ça, alors,
C'est
quand on dit ville, Japon, les gens pensent à Tokyo, mais en fait, donc dans des grosses villes comme ça, on a souvent fait du couchsurfing. Et sinon, le reste des endroits, ben en fait, on a dormi sur la plage. Et je parle des plateformes d'observation parce que c'est quelque chose que Camille, mon mari, a remarqué très tôt qu'on arrivait. En fait, les Japonais installent des plateformes d'observation, donc ça va être des bancs avec une jolie vue, parce que admirer le paysage, c'est quand même un sport national. Et en fait, ces plateformes-là, enfin, le soir, dès qu'il commence à faire un peu nuit jusqu'à 5 heures du matin, où il y a les premiers Japonais seniors qui viennent faire leur sport, il n'y a personne en fait. Et on parle d'un pays ultra safe. Et donc, on avait élu domicile sur ces plateformes-là au début quand on arrivait.
Ok, c'est encore une fois, c'est Camille qui t'a poussé ou toi t'avais pas du tout peur? C'était ok pour
Non,
toi
non, non.
de.
Non, moi, ça, j'ai aucun souci. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a poussé à partir au moment où, sinon, moi, j'aurais encore repoussé, puis peut-être qu'on
Ouais,
serait, on
après le
serait,
reste
on serait.
sur le chemin, vous étiez en ligne.
Oui,
Ah, vous étiez...
absolument.
Ok.
Là-dessus, même, je pense que la route, entre guillemets, te durcit aussi. Si Camille avait été là, il aurait un peu ironisé sur le fait que moi, j'ai grandi avec une maman qui est très, très maniaque. Et donc, c'était de se dire dormir n'importe où, n'importe comment. Est-ce que ça va aller pour toi? En fait, il en plaisantait, mais il faut dire qu'on a quand même, voilà, on a beaucoup voyagé quand même à vélo. Tu entends?
Bébé, ouais, c'est pas grave. C'est pas trop dérangeant.
On est à trois. Donc là, pour en revenir, non, Camille, je disais, il a pas forcément dû me pousser pour cet aspect-là, mais je pense aussi qu'il faut être bien aligné quand on part en voyage avec, peu importe la personne avec qui on part. Le point sur lequel on était d'accord, c'était de dire le plus important, c'est qu'on se sente en sécurité. Pas de mise en danger inutile. Après, tout le reste, c'était secondaire. Donc, parfois, on mangeait très très mal, parfois, on mangeait très très bien, parfois, on dormait dans un endroit quand même limite crado, mais voilà, ça, c'était extrêmement secondaire parce que le plus important, c'était de se sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment important, peu importe le compagnon de voyage, de se mettre d'accord sur le non négociable. Et après, pour moi, tout le reste est absolument, absolument négociable. Et lui aussi.
Et du coup, vu que tu as prévu de partir un maximum un an et pas 2 ans, enfin, j'imagine que vous n'avez pas prévu, enfin, vous ne saviez pas trop ce que vous alliez faire à chaque semaine. Ou comment vous prévoyez un peu vos voyages? C'était vraiment au jour le jour ou vous aviez une organisation?
Honnêtement, ça c'est. En fait, je pense que. Quand tu pars, c'est bien d'avoir un peu une direction, mais en ce qui nous concerne, c'était plutôt le type de voyage qu'on voulait faire plutôt que la destination. On voulait ne pas se presser, on voulait ne pas avoir de projet. Ce qui peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui partent et vraiment, je ne juge pas, c'est en soi, c'est une manière de faire aussi, qui alimente des réseaux sociaux, un blog, etc. Et nous, on s'était dit, non, en fait, on veut vraiment voyager pour nous et pas avoir. La nécessité de communiquer ou d'être même, de devoir se connecter fréquemment, etc. Et on veut vraiment prendre du temps pour soi et découvrir de nouvelles choses, mais en mode vraiment slow, quoi. Et en fait, quand tu pars comme ça, eh ben, ton trajet, il est fait par les opportunités, les rencontres. Je pense vraiment qu'on avait, comme je disais, jamais envisagé d'aller au Pakistan. Moi, j'avais en tête d'aller en Russie, mais pas forcément dans ce voyage-là. On s'est quand même retrouvé à Vladivostok, qui est le bout du monde dit européen, et, pour prendre un bateau, un ferry, puis aller au Japon. Enfin, il y a des endroits comme ça où
C'est
on serait
l'Est,
pas allé.
ça, c'est la dernière ville de Russie à l'Est, ça?
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'extrême est russe. Et puis, pareil, quand on s'est retrouvé au Sri Lanka, sur la fin de notre voyage, on avait le choix entre repartir vers. Pourquoi pas aller vers la Nouvelle-Zélande, en sachant que nous, on voulait y aller en bateau, donc en cargo. Et finalement, on n'a rien trouvé qui fonctionnait. Et puis, on voulait faire aussi un truc un peu spécifique là-bas, qui est la traversée à pied du nord au sud de la Nouvelle-Zélande. Et on n'avait pas trouvé d'équipement qui allait. Donc, au lieu de se dire, ah non, faut qu'on y aille, faut qu'on le fasse quand même, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et on a trouvé un cargo qui nous ramenait de Colombo, donc capitale du Sri Lanka, à Salerno, donc près de Naples, en Italie. En passant par le fameux canal de Suez, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. Et donc, on a pris ce cargo et puis on est rentré en Europe après 2 semaines de cargo. Tu vois, c'est un truc, quand on est parti, on n'avait pas du tout enfin, imaginé. Moi, je savais que c'était une possibilité, mais. Donc voilà, on s'est vraiment laissé aller. Et une fois de plus, en ayant un peu conscience de nos contraintes.
Je savais pas qu'on pouvait voyager en cargo. C'est donc avec tu étais avec les containers à côté.
Ouais, exactement. Sur un porte-conteneur, ouais. J'avais fait un stage, mon tout premier stage en Italie, chez un transporteur maritime. Et c'est là que j'avais vu que c'était possible. En fait, ils prennent 2, 4, 6 passagers. En fait, c'est assez
Trop bien.
confidentiel quand même. Ouais. Et donc, tu es avec l'équipage. Et moi, c'était un espèce de fantasme. En plus, cette partie-là du trajet. Ça fait écho au livre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Il y a quand même pas mal de choses qui, voilà, qui faisaient que j'avais vraiment envie de faire ça, mais c'était pas, on n'était pas sûr qu'on allait le faire et on n'y avait pas forcément pensé en partant.
Et comment tu fais pour monter dans un cargo? Il y a des sites internet ou il faut aller sur place?
Il faut contacter directement les compagnies maritimes, en fait. Il y en a une, la CMA CGM, pour ceux qui connaissent ou qui voient passer les conteneurs sur les trains. Il faut directement contacter la compagnie et eux précisent, parce qu'en fait, ça dépend aussi du type de cargo et du trajet. Et des ports, il y a des ports où on peut monter, des ports où on ne peut pas descendre, par exemple. Donc, Donc voilà, il faut les contacter directement. Il n'y a pas vraiment de site pour.
Et à l'intérieur, vous aviez vos petites cabines comme
Oui,
l'équipage.
exactement.
Trop
On
bien.
avait les mêmes cabines que l'équipage et on mangeait avec l'équipage. Donc voilà. Donc nous, sur notre cargo, on était quatre. On était un couple de septuagénaires suisses-allemands. Je précise parce que c'est quand même très rare de rencontrer des Suisses-allemands. Et Camille, dont la maman est suisse-allemande, c'était marrant de tomber comme ça sur ce couple-là. Et nous, en fait. Et d'ailleurs, l'équipage, voyant qu'on était un couple, disons, relativement jeune, était persuadé qu'on était en lune de miel. Parce qu'ils disaient, pourquoi les gens feraient ça sinon? Quel est l'intérêt d'être coincé pendant 2 semaines sur un cargo?
Ouais.
Donc, c'était. Ouais,
Et
c'était
du coup,
chouette.
pendant votre voyage, comment est-ce que vous remplissiez vos journées?
Mais c'est ça, en fait, tu vois, comme je disais au début, moi, j'avais peur de m'ennuyer. Mais en fait, tout prend du temps. Par exemple, le fait de pas savoir où on va aller le lendemain, ou 3 semaines, ou dans un mois, déjà, on passe énormément de temps à apprendre sur le pays, à apprendre sur les endroits où on va aller. Par exemple, quand on était en Russie à Vladivostok, je crois qu'on a passé l'équivalent de une journée complète dans un café, parce qu'on allait bientôt. On allait arriver au Japon et en fait, le Japon, on savait rien. On savait que c'était un archipel. On savait que, voilà, on connaissait ce qu'on connaît de la culture japonaise quand on n'y est jamais allé. Mais tu vois comment fonctionnent les systèmes de train. En fait, c'est une espèce de. Sans cesse, tu dois apprendre sur comment les choses fonctionnent là où tu es ou là où tu vas. Et ça prend quand même du temps. Nous, les rencontres prenaient tout notre temps. C'était aussi l'intérêt du voyage. Parce que soit tu es hébergé chez l'habitant et il y a un peu ce deal implicite, toi tu ramènes une partie du voyage là où tu es. Donc par exemple, bon, la famille qui nous hébergeait à Peshawar, au Pakistan, on a fait une espèce de projection des photos qu'on avait jusque-là. Surtout que Camille avait déjà réorienté sa carrière pour devenir photographe vidéaste, donc il avait quand même du très bon matériel déjà. Donc on a fait une espèce de petite projection. Donc voilà, les rencontres, je dirais, c'est le deuxième point qui prend du temps, mais c'est vraiment avec plaisir. Il y a tout de même la partie un peu visite, tu sais, qui prend du temps. Une fois de plus, c'était dans un pays, c'est aussi pour voir des choses. Et puis après, il y a un peu le quotidien, parce qu'il faut quand même se nourrir, parfois laver ses vêtements. Voilà, mais ça, c'est, je dirais, rien de différent par rapport à une vie sédentaire. Mais voilà. Mais en tout cas, la partie classiquement, ce serait ça. Et puis après, nous, comme je disais, on a fait beaucoup de randonnées, beaucoup de marches. Donc ça a aussi pris. Voilà, c'était une grosse partie de notre temps aussi. Enfin, quand on était au Pakistan, on a passé 3 mois dans les montagnes, par exemple. 3 mois dans les montagnes, 3 mois à dormir dans nos tentes. Qui était tellement petite qu'on l'avait surnommée la Parisienne. Elle était vraiment, vraiment toute petite. Comme les appartements parisiens, on dirait oh là là, mais on vit dans un. On pouvait même pas s'asseoir dedans parce qu'elle était ultra, ultra légère. Donc voilà, donc ça c'était un peu le voyage. Et puis voilà, tu lis, tu écris. Mais aussi, enfin, on s'est aussi retrouvé dans beaucoup de pays où les gens avaient moins l'habitude de voir des voyageurs. Enfin, tu vois, par exemple, on n'est pas allé dans. Le parcours un peu plus classique de l'Asie du Sud-Est. Et donc, nous, les gens qu'on rencontrait avaient vraiment envie de savoir pourquoi on était là. Et je me rappelle en Iran, par exemple, on était visiblement suivis, mais gentiment, par trois ados. Puis à un moment donné, ils nous interprètent et puis ils nous disent, mais voilà, on aimerait bien vous parler. On dit, bah, avec plaisir. Et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez en Iran? Parce que nous, on fait tout pour en partir. Et du coup, c'est intéressant. Tu vas prendre un café avec ces gens-là, tu papotes et puis tu as une autre perspective du pays et eux, ils ont une autre perspective de toi aussi.
Et par rapport justement à ça, vous avez fait des pays qui sont certainement pas très bien. Enfin, avec les passeports, ça n'a pas été compliqué de voyager entre des pays. Genre, je pense l'Iran, Pakistan. Je crois pas que
Ah,
tu peux aller au Pakistan avec un tampon iranien et vice versa, non?
Iran, Pakistan, ça va. Nous, on avait deux passeports, enfin du même passeport de passeport. On avait un passeport grand voyageur, ce qui est possible. Tu peux avoir deux passeports qui se terminent à la même date pour des raisons professionnelles ou si il te reste plus qu'une page, par exemple, sur ton autre passeport. Donc nous, on avait cette facilité-là. Mais ce n'est pas les visas pendant ce voyage-là qui ont été problématiques. On a eu beaucoup de soucis avec la Chine pour rentrer en Chine à cause de nos visas jordaniens pour Camille, enfin jordaniens et les visas du pèlerinage. Arabie Saoudite, voilà. Surtout que pour ceux qui sont déjà allés en Arabie Saoudite, en tout cas nous à l'époque, c'est 3-4 pages de papier et de photos. Donc en fait, quand tu ouvres le passeport, tu ne peux pas rater ce visa-là. Donc là, on a surtout des. Mais c'est rien de légal. Hein. Enfin, la Chine n'interdit pas en fait d'aller en Arabie Saoudite. C'est juste qu'on est tombé sur un officier qui avait ses propres idées. Et d'ailleurs, on n'a pas pu déposer notre demande de visa pour la Chine du fait de ma binationalité turque, parce que notamment en raison de ce qui se passe avec les Ouïghours, on m'a fait comprendre que j'étais persona non grata en fait, avec tout un discours délirant sur le gouvernement turc et puis les musulmans. Donc voilà, ça dépend un peu les pays dans lesquels tu vas, mais bon, de la même manière, on était à la frontière afghane au Tadjikistan et y a beaucoup de checkpoints. Donc on vérifie juste ton passeport, qui tu es, d'où tu viens. Et là aussi, l'officier nous avait demandé si on n'était pas des terroristes parce qu'on avait un visa saoudien. Donc, mais bon, il y a quelques anecdotes un peu comme ça drôles. Voilà, ou même en Iran, les gens réagissent pas forcément très positivement. Au Pakistan aussi. Enfin, c'est assez.
Est-ce que vous êtes un terroriste? C'est la question. C'est un peu
Ouais,
comme
c'est
quand tu vas aux
vraiment.
États-Unis, tu la poses aussi cette question.
Ouais, mais ce qui est très très drôle, c'est quand on te pose cette question dans des endroits du monde où, par exemple, en Europe, si tu pars de la frontière afghano-tadjik, tu vois, tu dis Afghanistan, les gens ont une image très très arrêtée. Et c'est drôle qu'on te pose la question dans des pays qui eux-mêmes ont cette image-là en dehors de leur frontière. Toi, en Pakistan, à Peshawar, on te pose des questions parce que tu es visiblement musulman et pratiquant. T'as envie de leur dire, mais vous êtes à Peshawar, vous êtes à 1 heure de Kaboul. Enfin,
Allô, quoi? Ouais,
si vous avez des idées, mais vous comprenez pourquoi en Occident, les gens ont des fantasmes sur vos pays, quoi. C'est assez incroyable. Donc, bon, on a eu aucune expérience mauvaise, j'ai envie de dire, du fait d'être musulman ou de ces visas-là,
Oui.
de ces temporaires de passeport. Mais voilà, ça interpelle quand même. Ça interpelle beaucoup les gens, notamment dans les pays, on va dire, de majorité musulmane.
Et vous avez rencontré beaucoup de musulmans dans votre voyage?
De voyageurs musulmans, tu veux dire?
De personnes dans vos rencontres, vous devez
De
rencontrer
par les
beaucoup.
pays, oui.
Oui.
Alors, déjà dans les pays où on allait, oui. Bah, typiquement, comme tu Pakistan, mais en Inde aussi, par exemple. Mon fils se réveille. En Inde, une partie du nord de l'Inde, il y a une grosse population indienne musulmane. En Iran aussi, et puis après,
Vous avez fait l'Inde aussi, du coup.
on allait juste après le Pakistan, on a réussi à avoir notre visa indien.
Ouais, c'est compliqué, ça.
Ouais, déjà, on ne l'avait pas eu en fait la première fois parce qu'on avait le tampon. En fait, on n'avait pas eu, on avait la durée minimum qui ne nous permettait pas d'y arriver en fait. Ils ne nous avaient pas donné le visa qu'on voulait, mais ils ne nous l'avaient pas refusé, mais ils ne nous l'avaient pas donné exactement ce qu'on voulait. Et donc, oui, la deuxième fois, on a pu l'avoir directement dans la demande au Pakistan. Après un interrogatoire, somme toute, assez drôle parce qu'ils voulaient vraiment vérifier. Qu'est-ce qu'on avait fait pendant 6 mois au Pakistan, en fait. Donc, on nous demandait les durées de trajet et même le cours, en fait, en disant, oui, mais si vous voulez aller je sais pas, de Skardu à Gilgit, vous avez pris quel moyen de transport, combien ça vous a coûté, vraiment pour vérifier qu'on avait vraiment voyagé dans le pays. Mais voilà, en tout cas, il y a eu donc, ces quelques pays-là où il y a des poches, entre guillemets, de population. Et puis, bon, aussi au Kirghizistan. Au Kirghizistan, ils étaient en train de reconstruire la mosquée de Bishkek, donc la capitale. Certains de nos hôtes aussi sur Couchsurfing.
En tant qu'un musulman, ce voyage, c'était assez difficile ou comment ça t'aide de voyager en tant que musulman?
C'était très formateur et c'était très bien pour moi de partir à ce moment-là parce que ça fait quand même quelques années que les discours en France me rendaient triste. Et en fait, c'est bien d'exister ailleurs en tant que musulman, de se voir et de se vivre dans son identité musulmane ailleurs où peut-être où les gens ont moins d'a priori, où ils ont plus d'a priori dans des pays musulmans. Nous, tu vois, typiquement, il y a des pays dans lesquels, parce qu'on venait d'Occident, on nous proposait des choses délirantes. Dans certains milieux, parce qu'on était européens en fait. Et les gens ne pouvaient pas s'estimer, ne pouvaient pas s'imaginer que vu qu'on était musulmans européens, mais en fait on était quand même musulmans pratiquants, et qu'en fait en Europe, tu avais aussi des gens qui étaient pratiquants.
Vous êtes des gens,
Donc en fait,
des
c'était.
choses ailleurs récentes, tu disais, du type.
Oui, on nous a proposé de l'alcool et de la drogue en Iran très très vite en fait, parce que.
Ok.
Parce qu'on était européens. Mais en fait, c'est parce que, mais ça, je l'ai compris beaucoup mieux. Il y a aussi des choses que j'ai vraiment compris, notamment par rapport à la frontière afghane. Il y a beaucoup de femmes burqa, en fait, parce qu'il y a une très grosse communauté pachtoune. Et en fait, une fois dans les maisons, les femmes ne sont pas du tout habillées comme ça. Et même, moi, ça m'avait un peu interpellée. On était dans une maison où. Une des dames d'être rentrée, puis elle a enlevé son voile, voilà. Et en fait, c'est là où tu comprends qu'il y a des choses qui sont de l'ordre social et que tu comprends pas forcément. Moi, je m'imaginais pas du tout que ces femmes-là avaient cette vie-là. En fait, tu comprends, elle t'explique que bah non, ici ça se passe comme ça, les hommes mettent des pantalons longs et des femmes mettent des burqas, et puis c'est pas forcément que tu es pratiquant ou que tu es croyant, même, c'est juste que ça fait partie de l'ordre social. Et en fait, voilà, c'est. Un peu naïvement, j'ai découvert de d'autres manières des choses que je n'aurais pas forcément imaginées. Donc, je pense que ça a été très bien. Et puis après, il y a eu des moments où je pense que, typiquement en Russie, notre hôte Couchsurfing, elle a été adorable. Elle nous a vraiment dépannés. On était coincés quelque part. Enfin bref, on s'est super organisés, mais elle avait juste vu une photo de nous sur notre profil. Et donc, quand elle est venue nous récupérer là où le minibus nous avait déposés, j'ai vu dans son regard qu'elle était très étonnée. Elle était étonnée en fait de dire ah mais en fait ces gens-là sont musulmans. Et on est arrivé dans la cour de leur datcha, de leur maison secondaire, avec toute la famille, les oncles, les tantes, etc. Et en fait tu vois dans le regard des gens pendant une demi-seconde cet étonnement de ah ok d'accord en
Ah
fait
bon?
d'accord ah bon. Et en fait, très vite, on brise la glace, on discute, et puis en fait, bon, finalement, on oublie, et je me dis, peut-être qu'avec ces gens-là, je n'aurai jamais eu l'occasion d'échanger si en fait, il n'y avait pas eu ce voyage-là, en fait. Ou peut-être qu'eux n'auraient jamais échangé avec des musulmans s'il n'y avait pas eu ce voyage-là. Et cela dit, en parlant d'a priori, c'était des deux côtés. Il y avait le grand-père qui avait un air un peu bougon comme ça. Voilà, tu te dis quelqu'un qui a l'air d'être un bon vivant, mais bon, tu t'attends pas plus que ça. Et puis en fait, on commence à discuter avec lui. Il était chercheur, astrophysicien, il travaille sur des projets de fou. Donc tu vois, les préjugés, les a priori sont dans tous les sens, hein. Mais voilà, en tout cas, ça a été. Je pense que c'est très bien de sortir de ces frontières européennes, françaises et européennes en tant que musulman pour voir. Pour avoir d'autres interactions et ça fait du bien, vraiment.
Moi, c'est le Japon qui m'avait beaucoup surpris avec tous les aménagements que tu vois, tu as dit qu'il y avait très très peu de musulmans là-bas, c'est vrai. Il y a très 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 peu. Mais il y a énormément d'aménagements prévus pour les musulmans pour qu'ils puissent prier. Je sais pas si vous avez rendu compte ou s'il y en avait à ce moment-là.
Oui,
Mais à
absolument. Et
l'époque où
d'ailleurs.
j'étais, pour mon stage, oui, il y a des salles de prière dans les grands halls, hyper propres, même dans les musées, ce genre de choses. Et ça m'avait bluffé.
Oui, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'était il y avait une espèce de kiosque, je crois que c'était à Kyoto. On allait juste demander un renseignement et puis la personne nous voyant, elle sort un autre leaflet qui était un leaflet spécial Kyoto pour les musulmans, avec une carte où il y avait toutes les salles de prière et les restaurants halal. Mais nous, on n'avait rien dit en fait, c'est juste parce que voilà, elle nous avait vus et qu'elle m'avait vue. Et ça m'avait vraiment fait sourire en me disant, mais c'est deux mondes très différents. Et puis même. Voilà, on sait que les Japonais sont très, très attachés à leur cuisine. Nous, dans pas mal de restaurants, à chaque fois, on demandait en fait ce qu'il y avait dans les plats, quel type de sauce, etc. Et j'ai jamais ressenti en fait que ça gênait ou alors que bon pour en venir quand je suis en France des fois ça me presque je me sens gênée parce que tu sens que tu es en train de faire une attaque un espèce de
En France,
symbole
on mange comme
national
les
quoi.
Français. Hein.
Ouais voilà ce qui ne veut rien dire hein. Camille est français c'est pas pourtant qui voilà mais en tout cas il y a je dis pas ça pour casser du dos sur du sucre sur de la France pas du tout hein. Mais c'est vrai que d'aller dans d'autres pays, voir comment les gens sont, ça fait quand même du bien. Ça amène une autre perspective.
Ouais, trop bien. Est-ce que tu as des tips, des conseils, des applications, je sais pas, qui sont indispensables, qui ont été super utiles pour vos voyages?
Une seule application, OpenStreetMap,
Pour
qui
télécharger
a...
les cartes?
Ouais, pour télécharger et surtout en fait c'est des cartes qui ont tout. Nous on a fait nos randonnées avec ça dans des pays où il n'y a pas de cartes en fait, c'est pas les cartes IGN ou tout bien à l'échelle, etc. Je crois que c'est 5 euros l'année ou quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on voit toutes les plateformes d'observation. Enfin, tous les trajets qu'on a fait, on l'a fait avec OpenStreetMap. Et c'est vraiment, ouais, c'est pour nous l'application. Le reste, on n'utilise pas du tout. On n'a utilisé aucune des autres apps. Il y a juste ça qu'on utilise. Effectivement, Couchsurfing, mais
Couchsurfing.
voilà. Mais c'est pas tant l'application. Enfin, vous pouvez même faire ça sur le site, mais en tant qu'app pure, clairement OpenStreetMap et évidemment Couchsurfing.
Ok.
Après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses qui existent, mais ouais, nous, on a un peu voyagé à l'ancienne, disons.
Est-ce que pour vous, enfin même en tant que couple et personnellement, il y a eu un avant et un après ce voyage de 2 ans?
Oui. Je pense que, en fait, il y a eu. Bon, déjà, je pense que ça se comprend, ça s'entend. On se rejoint sur énormément voilà, vision du monde, le fait d'avoir fait les mêmes études, mais aussi d'avoir monté des projets ensemble. On est déjà parti voyager longtemps, enfin, plusieurs fois ensemble. Le fait de. Voilà, il y a quand même un alignement, je crois. Mais je pense que ça a clarifié beaucoup sur ce qui nous rendait heureux en fait en tant que couple, le type de mode de vie qui nous plaisait. Alors c'est vrai que moi quand j'ai dit ça et je suis revenue vers elle, j'ai dit voilà c'est une évidence, je veux travailler, je veux continuer à m'inscrire dans l'univers de l'écologie. J'ai une copine qui m'a dit en plaisantant mais t'avais pas besoin de partir 2 ans pour ça, hein, moi j'aurais pu te le dire. Tu sais, c'est tellement évident, mais les gens voient des choses en toi que toi, tu vois pas. Donc voilà, il y a eu cet aspect-là, je pense, qui était très, très fort pour tous les deux, c'est de se dire, mais en fait, ce qui nous rend heureux, c'est des choses extrêmement simples, c'est d'être dehors, c'est d'être en lien avec la nature. Et en tout cas, de s'inscrire professionnellement, soit un métier qui soit à l'extérieur, soit un métier qui soit vraiment en défense du vivant, en fait. Pas uniquement de l'environnement, parce que voilà, l'environnement... C'est une vision, en fait, d'un côté, il y a l'humain et après, il y a l'environnement, alors que c'est plutôt une vision intégrée. C'est un peu comme, en tant que musulman, tu considères la création et tu mets tout être vivant dedans, nature y compris, enfin, au sens large. Donc, pour nous, c'était évident, soit en étant dans un travail qui permet d'être plus à l'extérieur, soit d'être clairement dans la défense voilà, du vivant. Je pense qu'il y a eu cet aspect-là. Et ensuite, se rendre compte qu'on est beaucoup plus heureux quand on marche, quand on est en mouvement, et de vouloir offrir ça, plus tard, si on a des enfants, c'est ce qu'on se disait à l'époque. Donc voilà, je pense que ça a juste renforcé que c'est ça qu'on, voilà, qui nous anime vraiment. Et je pense que pour en revenir au fait d'être musulman, je crois que ça a ajouté une dimension au fait de dire que c'est mieux d'être dans un cadre où on ne passe pas beaucoup d'énergie à juste exister socialement, où tu vas pouvoir exister socialement, et qu'il faut qu'on trouve un cadre dans lequel on peut juste être qui on est dans notre en gros entièreté, pluralité, j'allais dire authenticité, parce que finalement c'est là où les plus belles choses se passent en fait, quand toi tu es entier. Alors que bon, c'est vrai que quand tu es dans un contexte où tu es amené à devoir. Dire très peu sur toi ou cacher une partie de ton identité parce que ça peut être problématique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je pense pas des communs musulmans, tous les gens qui ont un peu voilà, une différence. Moi, je parle souvent de coming out quand tu es croyant. Je pense qu'il y a d'autres types voilà, d'autres manières bêtes qui peuvent être complexes aujourd'hui dans la société. Ça, je pense qu'on s'est dit, bah, vaut mieux qu'on. C'est douloureux, mais vaut mieux être entier, pleinement soi, parce qu'en fait, c'est là que les plus belles choses se passent, quoi.
Ok.
C'est un peu le deux enseignements.
Trop bien. Donc ensuite, vous êtes retourné chez vous, chez à Paris, ou
Non,
bien...
alors du coup, non, on avait plus de. Parce qu'en fait, à Paris, il faut savoir qu'on louait une chambre chez une personne. En fait,
Ok.
on était à Fontenay-sur-Loire et on louait juste une chambre. Donc, on a, en fait, quand on est parti, à l'époque, on habitait à Chambéry. Quand on est parti, qu'on a vraiment arrêté notre structure, on a vendu tout ce qu'on avait, en fait, tout ce qui pouvait être vendu. Et on a gardé, mes beaux-parents te diraient beaucoup trop de cartons. On a gardé quand même des cartons et d'autres meubles voilà, auxquels on tient, qu'on a entreposés chez eux. Et donc, en fait, quand on est revenu un soir de tempête. C'était assez incroyable d'ailleurs, vraiment tempête de neige en Savoie chez mes parents. Et puis à partir de là, en fait, on s'est donné une très courte période en disant faut qu'on ne veut pas être un poids, faut qu'on se trouve quelque chose pour pouvoir remettre le pied à l'étrier. Et puis quoi, là commence autre chose. Camille avait ses projets photo vidéo qui commençaient à démarrer. Et du coup,
Son enfant
est-ce
qui
que tu
crie
m'as.
derrière.
Tu entends? Ouais, j'ai fermé deux portes pour toi.
C'est pas grave, bon, c'est
Ouais.
léger.
En fait, je pense qu'il est dans la salle de bain qui est attenante. Donc, ça risque de
C'est pas grave, c'est pas
durer.
grave.
Mais ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Je pense
Ouais.
qu'il est en train de changer sa couche. Je crois que c'est ça.
T'inquiète.
Donc, non, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est que donc lui, Camille, commençait à faire ses projets photo vidéo. Il est d'ailleurs reparti quelques mois après en Jordanie pour préparer un voyage photo. Et en fait, moi, avant de revenir, avant de sauter dans le cargo en fait au Sri Lanka, j'avais repris contact avec quelques personnes en France en me disant voilà, je reviens. Pour moi, c'est une évidence. Je veux travailler dans le domaine des déchets. Et en fait, on en a peu parlé, mais pendant le voyage, il y a eu en plus du fil conducteur d'être en mode slow, etc., et vraiment de se laisser du temps pour découvrir. Il y a eu un deuxième fil conducteur qui était pour le coup pas voulu, et ça a été le déchet ménager solide qu'on a vu partout, qu'on a vu à des altitudes vraiment improbables au Tadjikistan, au Pakistan, qu'on a vu en ville dans beaucoup d'endroits, et même d'une certaine manière, y compris au Japon. Et là, tu vas me dire, mais non, mais le Japon, c'est propre. Nous, on vivait avec une famille qu'on appelle notre famille japonaise aujourd'hui. Et en fait, on sortait des poubelles. Quand, en tant que Français, tu es habitué à sortir tes poubelles 2 fois par semaine, mais que là, il y a 7, 8, 10 tri différents et que tu sors autant de poubelles tous les jours, bah, tu te poses des questions, en fait. C'est trié, certes, mais en fait, ce déchet-là, à la base, ne devrait même pas exister. C'est ce qu'on dit souvent dans la philosophie zéro déchet, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc même au Japon, ça m'avait énormément interpellée, la problématique du sur-emballage, y compris l'emballage au moment des fruits qui poussent sur l'arbre pour les protéger. Donc ça va quand même très 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 loin. Et comme tu sais, le Japon a une culture hygiéniste très forte. Donc voilà, donc ça a été un peu le fil conducteur entre les déchets sauvages, les déchets brûlés ou le sur-emballage.
Ah,
Et
les
donc voilà,
sèches
je me suis dit.
poubelles, ça me rendait fou, moi. C'était le tri. Ça ferait une demi-heure pour trier là-bas.
Exactement. Et même, bon, je pense que voilà, typiquement à Singapour, il va y avoir un peu la même approche. Mais une des choses qui
Alors, pas
m'avait
vraiment, pas
interpellée, c'est
vraiment.
que.
Ici, il n'y a pas du tout pas beaucoup de tri. C'est comme en France, on va dire, quasiment.
D'accord. OK. Mais c'est vrai que du coup, au Japon, l'autre chose qui m'avait interpellée, c'est qu'il y a très peu de poubelles à l'extérieur comme ça, parce qu'en fait, sinon, les gens ne le trieraient pas. Et donc, quand tu produis un déchet, tu as de grandes chances de devoir le garder sur toi et en fait le déposer chez toi dans la bonne poubelle. Mais n'empêche que ce fil conducteur m'a un peu titillé pendant ces 2 ans-là.
Tu
J'ai
sais,
dit,
juste
voilà.
parce que j'ai oublié de te le dire sinon, mais l'histoire de la poubelle, moi, on m'avait raconté que c'était dû à une attaque terroriste il y a plusieurs, peut-être, enfin, il y a plus de 10 ou 20 ans, je sais pas, même plus longtemps que ça, peut-être, qui mettaient des choses dans les poubelles toxiques.
Ah, Alex, d'accord.
Ouais,
Et c'est pour ça qu'il y a eu
ils avaient enlevé toutes les poubelles, ouais. C'était dû à ça.
Mais c'est vrai que Ouais, bah c'est vrai que je n'en connaissais pas la raison, mais on s'est dit, voilà, si tu ne trouves pas de poubelle, en fait, tu es amené à garder ton déchet sur toi, ce qui est très bien, mais ça interpelle surtout nous qu'on n'avait pas de chez nous. Donc, ça devenait vite, vite, vite compliqué, en fait, de pouvoir voilà, remettre les emballages dans le circuit. Donc, moi, je m'étais dit, de toute façon, à l'avenir, je travaillerai sur la question de l'eau ou du déchet, et l'agriculture, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est là, en fait, sur le retour du voyage où j'ai pris contact. Et en fait, on m'a tout simplement dit qu'il allait se passer des choses au niveau européen sur la thématique du plastique et du zéro déchet. Parce que voilà, je connais des gens qui travaillent dans ce milieu-là depuis plusieurs années. Et donc, tout simplement, j'ai pris contact avec l'organisation européenne qui s'appelle Zero Waste Europe, qui est basée à Bruxelles, qui a donc le réseau européen des associations de promotion et de défense du zéro déchet. Donc en Europe, et qui représente cette approche et cette vision auprès des décideurs européens pour influencer la législation européenne, et qui soutient en fait ce réseau en Europe de manière en fait à entendre les bonnes pratiques sur les territoires, mais aussi à faire en sorte que les bonnes législations elles soient bien mises en place dans les pays. Donc moi, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait une dimension réseau, qu'il y avait une dimension européenne. Et en fait, il s'est juste avéré qu'il y avait une ouverture de poste. Voilà, c'est l'opportunité qui s'est offerte. En fait, il y avait une ouverture de poste sur quelqu'un pour gérer le réseau européen, puisqu'effectivement, il y avait ce projet plastique qui allait débuter. Et en fait, quand je parle du projet plastique, toi, en tant que consommateur, tu te rends compte aujourd'hui que depuis 2-3 ans, on parle beaucoup plus des emballages et du plastique à usage unique. Et en fait, c'est le fruit du travail de centaines d'ONG dans le monde et en Europe, en fait, qui ont poussé cet aspect-là, et aussi parce qu'il y avait un espèce de bon timing au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, en fait, sur le retour dans notre voyage, moi, j'avais un peu cette piste-là. Et en fait, j'ai eu une proposition de poste quasiment un mois, enfin un peu moins d'un mois après être rentrée de voyage. Et là, on m'a dit ça à Bruxelles. Voilà, donc... Et d'ailleurs, j'ai appris qu'on ne disait pas Bruxelles comme je viens de faire, mais qu'on disait
Bruxelles.
Bruxelles. Voilà, donc je me corrige à chaque fois. Je sais que ça fait 4 ans que je suis ici, et des fois encore, j'ai fait des petites erreurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette proposition de poste, et puis on a dit go. Voilà. De toute façon, notre sac était à peine défait, donc on l'a juste repris, et puis on a débarqué à Bruxelles.
Couchsurfing à Bruxelles.
Non, 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 même pas. Ça a été. Voilà, c'est là où tu te dis que quand voilà, it's meant to happen. Voilà, Dieu te facilite vraiment, quoi. On nous a proposé un logement, en fait. Une amie d'une connaissance nous a proposé son logement pour qu'on démarre sur les 6 premiers mois.
Ok,
Voilà.
trop bien.
Donc là, bon, parfait, quoi. On est arrivé, on
Ah bah
avait
la cas.
exactement un logement meublé. Moi qui avais de grosses réticences, parce qu'effectivement, on avait en tête de plutôt s'installer dans un endroit beaucoup plus nature qu'une capitale. Voilà, ça a été la découverte de cet univers-là. Peut-être en quelques mots pour ceux qui ne connaissent rien du tout à ce qui se passe à Bruxelles ou ne sont pas du tout intéressés de base. En fait, la législation européenne, elle est débattue, elle est rédigée, elle est amendée ici à Bruxelles, et effectivement des choses qui se passent aussi à Strasbourg, mais c'est ici que le travail va se faire auprès de la Commission européenne. Donc, en fait, il y a d'une part le lobby des industries, donc qui est organisé par les fédérations d'industrie, etc. Et puis, bah, en fait, pour être sûr que le débat soit équilibré, l'Union européenne, donc la Commission, finance en partie le lobby de la société civile, donc la représentation des associations. Donc, la plupart des associations ont soit une antenne européenne, soit des têtes de réseau qui viennent en fait apporter des éléments aux parlementaires, aux députés européens, etc., aux décideurs européens, des éléments pour qu'eux prennent des décisions qui, en prenant compte, on va dire, on ait entendu toutes les voix. Donc, moi, j'ai un peu découvert ce fonctionnement-là, le fonctionnement des ONG européennes, qui font vraiment ce travail de lobby auprès des décideurs, et notamment sur la question du déchet. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint The Rest Europe, et puis j'ai changé de poste entre-temps, on a créé un poste de directrice adjointe, et comme je disais en introduction, moi j'étais formée pour gérer des organisations, donc ça tombait bien, Et voilà, l'organisation a vraiment grossi. On était 6 quand je suis arrivée, on est une vingtaine aujourd'hui.
Et comment tu t'es vendu pour rejoindre l'association? Comment est-ce que tu as vendu ton voyage, ton expérience? Parce que je me dis que
Ouais, c'est.
tu as envoyé un mail dernière minute avant de prendre le cargo.
Ouais.
On a l'impression que c'était juste comme ça, je suis là.
Honnêtement, en fait, je pense que moi, en tant que Française, je me disais, ah là là, je vais avoir un trou de 2 ans dans mon CV. C'est vraiment cette réflexion qu'on se fait. Et maintenant que je travaille dans une structure, déjà que je suis dans une ville cosmopolite et qu'en plus je travaille dans une structure internationale, ça me fait sourire de réaliser à quel point j'ai une vision, j'avais et j'ai toujours, je pense, une vision très française du parcours professionnel, qui doit être un parcours linéaire, extrêmement logique, où on ne valorise pas forcément, il faut dire, traditionnellement, la prise de risque ou les changements de carrière. Et en fait, quand j'ai présenté mon parcours, il y a une chose que je n'ai pas précisée. Moi, j'ai toujours fait un peu de freelance à côté, ce qu'on appelle la facilitation. J'ai toujours géré des groupes sur des processus créatifs, etc. Et donc, j'en faisais ce que j'en faisais à l'époque, on avait des projets d'habitat. J'en ai fait après avec l'association. J'en ai fait un peu en freelance aussi. Donc, en fait, il y avait des domaines qui m'intéressaient, mais qui ne faisaient pas forcément sens dans ma fiche de poste. Et que je faisais par ailleurs parce que ça m'intéressait par ailleurs. Et en fait, tout ça, en fait, en mettant dans mon CV, parce que j'ai quand même dû faire un CV, j'avais pas fait de CV depuis mes recherches d'alternance quand j'étais étudiante, où j'ai dû trouver un peu de la cohérence. Je me suis dit, en fait, il y a des trucs qui sont pas cohérents, mais pas grave, quoi. Oui, on peut lancer un projet sur l'efficacité énergétique, l'éco-construction, et à côté de faire de la facilitation de groupe sur lancer une ferme en permaculture. C'est juste des compétences différentes et puis et c'est pas grave. Alors que quand tu es français et qu'on t'apprend à faire ton CV, il faut que ce soit vraiment logique, il faut vraiment que les personnes lisent un peu ton parcours, etc. Donc ce que j'ai fait dans cet email, je savais qu'il y avait une opportunité qui allait arriver sur pas trop loin des compétences. J'ai juste expliqué mon parcours. Et par rapport au voyage, en fait, ce qui jouait en ma faveur, c'est que là, en tant que structure européenne, la grosse crainte, en fait, c'est d'avoir une vision un peu ethnocentrée Europe de l'Ouest. Et en fait, quand tu gères un réseau européen, bah, tu interagis avec des personnes qui sont évidemment d'Europe de l'Ouest, mais qui sont de partout en Europe. Et nous, dans notre cas, Zero Waste Europe, c'est la branche européenne d'un mouvement global. Donc, il y a la même structure en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Afrique. Donc, il faut aussi des personnes qui ont premièrement la capacité de parler et de se faire comprendre avec des gens qui ne sont pas forcément natives, donc qui ont l'anglais comme leur deuxième ou troisième langue, comme c'est le cas pour moi, et puis qui ont ce qu'on appelle une espèce de sensibilité culturelle, de cette multiculturalité. Et en fait, mon voyage a joué en faveur de ça, en disant que non seulement moi, dans mon identité personnelle, intime, j'ai cette diversité-là, mais en fait, je viens d'être pendant 2 ans à l'école à l'école du terrain. Où en fait, tu dois t'adapter à des cultures extrêmement différentes et pas arriver avec tes gros sabots d'Européens qui sait tout, en fait, d'Européens de l'Ouest qui sait tout. Donc voilà, ça a joué vraiment en ma faveur. Et je pense que, mine de rien, le fait d'être allé dans des pays qui ne sont pas forcément les pays du tourisme de masse, ça aussi montre qu'on sait prendre, enfin, il y a un certain rapport à la prise de risque et peut-être l'audace. Même si après coup, honnêtement, aller dans ces pays-là, vraiment, il n'y a rien de si fou, quoi. Je pense que ça a joué quand même en faveur de mon recrutement, je dirais. Plus mes expériences entrepreneuriales d'avant, et voilà. Puis c'était une création de poste, donc j'ai pu modeler aussi le poste en fonction de mon expérience.
D'accord. Et du coup, ton rôle là-bas, ça consiste à maintenant, tu fais quoi en fait de ton
Ouais.
travail là-bas?
Alors aujourd'hui, donc maintenant on est 3 directeurs, on était 2 jusqu'à récemment. On a aujourd'hui une DAF, en fait, qu'on a recrutée en début d'année. Et donc on est 2 directeurs. Il y a un directeur exécutif qui lui est en charge de l'orientation politique, donc il va vraiment travailler avec l'équipe de lobbyistes sur les grands projets, et aussi un peu quel est notre point de vue sur toutes ces questions qui nous arrivent. Parce qu'en fait, très souvent, il faut nous-mêmes trancher, avoir une idée d'orientation avant d'aller en parler aux décideurs. Donc, lui est vraiment responsable de cette partie-là, contenu. Et en fait, moi, je gère le développement de l'organisation et du réseau, et donc de l'équipe. Donc, on a ces 2 rôles parallèles. Donc lui va être plutôt plus sur le contenu, moi plus sur le, on va dire le contenant pour simplifier. Et aussi, l'un et l'autre, on représente la structure européenne au niveau du mouvement global. Parce que l'idée, c'est d'avoir des campagnes internationales qui aillent dans le même sens. Donc typiquement, cette semaine, il s'avère que c'est la semaine européenne des couches réutilisables. En fait, il y a une problématique de déchets, mais il y a aussi une grosse problématique de santé. Par exemple, par rapport aux couches, il y a énormément de produits qui sont utilisés, notamment pour imperméabiliser, mais aussi des parfums qui sont utilisés. Et on sait aujourd'hui que, depuis de nombreuses années, qu'en fait, ces produits à usage unique ont aussi un effet sur la santé, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, et aussi des effets qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça, c'est un travail, c'est hyper chouette quand tu le fais au niveau européen, mais quand tu es en mesure de montrer que aujourd'hui, il y a un impact en Asie aussi, parce que les couches à usage unique sont en train de se développer à une vitesse hallucinante, comme en Afrique, alors que les marchés sont plus stables, par exemple, en Amérique du Nord ou en Europe. Voilà, ça donne plus de force. Donc, en fait, on fait aussi ce travail-là de se coordonner avec nos collègues qui sont sur les autres continents. Donc, voilà, le cœur de métier même de cette ONG, parce qu'on est une ONG européenne. C'est en fait, comme je disais, c'est l'influence des politiques européennes en passant par le terrain. Et par exemple, on a un projet phare qui, depuis 10 ans, en fait, existait même avant l'existence juridique de la structure, parce que ces ONG-là, dans les différents pays, existent avant nous, en fait. La tête de réseau est arrivée plus tard. Donc, c'est finalement les membres qui ont créé la tête de réseau. Il y a un projet phare sur les villes zéro déchet, les villes et territoires zéro déchet. En fait, c'est des villes qui décident de mettre en place des systèmes, pas uniquement pour bien gérer les déchets, pour recycler ou pour faire du compost, par exemple, mais qui vont mettre en place tout un système pour réduire les déchets à la source. Par exemple, je continue sur l'histoire des couches, par exemple. Dans des pays, en Italie, il va y avoir des services de couches réutilisables, lavables, pour les crèches ou dans les hôpitaux. Donc pas forcément près des ménages, mais là où vraiment il y a de la production importante de déchets, en fait, la ville, la métropole va mettre en place des systèmes pour réduire les déchets à la source. Donc ça, c'est un peu ce type de démarche sur lesquelles on travaille. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de zéro déchet, beaucoup de gens pensent au plastique, mais il y a énormément d'autres types de déchets. Les plastiques sont très peu recyclés, en fait. De tout le plastique qui a été mis sur le marché depuis les années 50, on sait aujourd'hui que seulement 9% a été recyclé, efficacement recyclé. Tout le reste a été soit dans l'environnement, là on entend beaucoup de la pollution des océans, soit dans l'environnement, soit a été brûlé, etc. Donc il y a cette problématique du plastique, mais en fait, si on parlait des déchets organiques, il y a très très peu de déchets organiques. On est même sur des taux encore moins importants qui sont dits recyclés, donc compostés. Et quand tu fais le lien avec l'agriculture, que tu sais que l'agriculture est très consommatrice en eau, etc., et que si à la fin de la chaîne, on sait qu'il y a du gaspillage alimentaire et que même en fait, ce qui n'est pas purement gaspillé, parce que dans tes déchets organiques, tu as aussi des épluchures, etc. On s'entend bien, c'est pas que du déchet, pas que du gaspillage alimentaire. En fait, si on était capable de réduire un peu à la source, ou de valoriser en fait ce qui est vraiment de l'ordre du déchet type épluchure, autrement en le remettant dans des filières agricoles ou tout simplement en faisant de la biomasse ou même du compost, en fait il y a des potentiels de préservation de ressources qui sont juste énormes. Et donc on travaille sur le fait de créer le cadre et les habitudes appropriées pour atteindre cet objectif-là. On dit qu'on tend vers le zéro déchet. On sait que c'est un objectif, pas qui est inatteignable, mais voilà, on tend vers le zéro déchet. Et l'idée, c'est d'avoir les bonnes lois européennes pour ça.
Moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à un aspect de la religion qui est le non-gaspillage. Et du coup, tu as réussi à lier les deux à 100% là pour le coup. Et c'est vraiment chapeau, c'est super.
Mais je pense que
Vas-y,
oui,
je te laisse réagir.
non, ça s'est fait comme ça, mais comme je te disais, moi j'ai grandi avec cette vision-là, j'ai grandi avec ce désir-là, et qui a été, voilà, moi, comme beaucoup de personnes, je pense, beaucoup de personnes que je connais en tout cas, qui ont grandi en France, qui ont eu une éducation islamique, comme mes amis, certaines amies allaient au catéchisme, etc. Moi, j'ai eu une espèce de revivification de ma foi, plutôt au moment de mes études, où j'ai rencontré d'autres gens qui étaient, voilà, moi je suis musulmane franco-turque, donc il y a aussi une manière particulière d'appréhender la religion. Mais en fait, j'ai eu cette espèce de revivification au moment de mes études en rencontrant d'autres personnes, d'autres musulmans, et aussi en faisant des cursus sur islam et écologie. J'avais fait un cursus à l'époque à Lyon, c'était une formation de quelques modules sur islam et décroissance. En gros,
C'était avec qui?
j'essaie de me rappeler l'association des consommateurs musulmans.
CFCM?
Voilà, non, c'est pas le CFCM, c'est l'Union des consommateurs musulmans, c'est ça? Je me rappelle plus.
L'UFCM, ouais.
L'USCM, ouais. Donc voilà, pour dire, pendant mes études, donc j'avais rencontré beaucoup de musulmans de profils absolument différents, et donc j'avais fait un cursus, c'était quelques modules, 3-4 modules avec l'UFCM, donc l'Union française des consommateurs musulmans à Lyon. Et j'ai bien oublié le nom de l'intervenant, mais donc c'était un cursus sur l'islam et décroissance. Et c'était vraiment de comprendre quel est le lien entre tous ces concepts qu'on entend aujourd'hui et en fait l'éthique musulmane. Et je me rappelle avoir naïvement posé cette question à l'intervenant en me disant, mais en fait, ok, d'accord, si tout ça est vraiment ancré dans notre foi, pourquoi l'Arabie Saoudite? Pourquoi en fait les pays musulmans sont surtout producteurs de pétrole, etc. Enfin, pourquoi ils sont. Enfin, quand je passe à ces pays-là, on ne pense pas forcément à des modèles d'écologie. Et il m'avait répondu avec beaucoup de bienveillance que déjà, j'avais une vision un peu limitée des pays dits musulmans. Pourquoi je ne pensais pas spontanément à l'Indonésie ou à ces autres pays? Et c'est vrai que très souvent, on ne pense pas à ces autres pays où il y a une très forte population musulmane et qui ont un rapport très différent. Et il m'avait dit, le deuxième point, c'est les pétrodollars. Il y a une très grosse différence entre la culture islamique et en fait le capitalisme et le fait que ces pays-là, c'est parce qu'ils ont une tradition musulmane qui s'inscrivent en fait dans l'éthique musulmane absolument. D'ailleurs, on connaît aujourd'hui toutes les autres dérives qu'il peut y avoir dans ces pays-là, le travail forcé, etc. Donc voilà, moi j'avais 18 ans à l'époque, je commençais mes études, j'étais un peu. J'ai une vision, je pense, très, très limitée de la réalité de ces pays-là, mais. En tout cas, il y a cet aspect-là qui moi, ouais, m'a toujours interpellée.
Ça a dû te traumatiser le hedge.
Ah oui. Oui, écoute, on en a énormément parlé après. Ouais, voilà. Arafat, le lendemain, réveil à Mina. Enfin, il y a quand même plusieurs moments où on se dit, il y a des stations qui sont très. Ouais, c'est très, très difficile. Ensuite, il y a quand même un échantillon qui représente le monde entier, en fait. Tu es assis entre une personne qui vient du Gabon, derrière toi, il y a un Canadien, contre toi, il y a un Yéménite. Devant toi, il va y avoir une Malaisienne. C'est vraiment y a des gens qui viennent de milieux très, très différents et qui ont un rapport différent. Mais c'est vrai que, voilà, j'espère que depuis 2013, les choses ont un peu évolué, mais ça a été vraiment difficile.
Pas sûr, hein. J'entends souvent des gens qui continuent de s'en plaindre. En fait, cette année, avec le Covid, il y aura moins de monde et du coup, il y
Ouais,
aura moins de déchets.
ça a été très difficile. Mais voilà, une fois de plus, c'est là où tu te rends compte que peut-être aussi dans la manière avec laquelle on explique l'éthique musulmane, moi, voilà, j'ai une éducation islamique faite par des Turcs, donc qui est très portée sur la règle, quelles sont, voilà, on parle très peu de spiritualité. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais en tout cas, moi, l'enseignement que j'ai eu était très, je ne vais pas dire rigoriste, mais très porté sur les règles, voilà, les rites, les rituels, et très peu sur la spiritualité. Et c'est vrai qu'on parle très peu de cet amour en fait du vivant qu'il y a, le rapport à la création. Moi, je me rappelle d'avoir à l'époque où je faisais mes études découvert qu'il y avait une notion de site protégé en fait, qu'à l'époque du prophète sallam, il y avait des endroits où on pouvait pas faire d'agriculture, on pouvait pas installer de commerce, et c'était par exemple à proximité des sources. Et donc la notion de, si je ne me trompe pas, de Hima, donc d'espace protégé. Donc déjà, en fait, dans cette période-là où on était très, très loin de parler d'écologie, il y avait des approches, en fait. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas parce qu'on va parler des rites obligatoires, etc. Donc je pense que dans la manière avec laquelle on enseigne l'éthique islamique, il y a un vrai manque par rapport à la notion d'environnement, d'écologie. Et je sais aujourd'hui qu'il y a aussi des gens qui sont un peu embêtés parce qu'on a l'impression qu'on emprunte ça, entre guillemets, au monde profane et qu'on essaye de faire une espèce d'éco-islam. Mais c'est pas besoin de dire éco-islam, en fait. Dans l'islam, il y a cette dimension-là. Comme dans la plupart des religions monothéistes, hein, c'est clairement. Aucune des religions monothéistes, et je ne connais pas assez les autres religions, mais aucune des religions monothéistes dit gaspiller
C'est bien
et
gaspillé.
voilà, et continuer à nuire à la création de Dieu. Non. On lui donne le respect, c'est juste que ce n'est pas l'emphase, elle n'est pas mise sur ça. Et c'est bien dommage.
C'est clair. Bah écoute, Esra, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je t'ai posé toutes les grosses questions que je voulais te poser. J'ai quelques petites questions pour la fin, mais si tu as quelque chose à rajouter avant, n'hésite pas.
Alors, ce que je voulais dire, c'est en faisant un peu le lien, comme je disais, donc, moi j'ai un mélange de parcours entre la question des ressources et cette idée du côté international, du voyage qui est très présente, et puis cet esprit un peu entrepreneurial. Moi, j'ai vraiment découvert l'univers des institutions européennes, parce que ce n'est pas ma formation, je n'ai pas fait sciences politiques, par exemple. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait en Europe, au cœur même de l'Europe, des endroits où il se passe des choses vraiment absolument essentielles et des processus fascinants. Donc, je ne sais pas pour les gens qui vont écouter cet épisode d'aller regarder si il y a un projet de carrière ou il y a une réflexion sur l'orientation, d'aller regarder du côté des métiers auprès des institutions européennes ou dans cet univers-là. Parce que je pense qu'il y a une vraie opportunité pour très souvent des gens comme nous qui sont binationaux, etc., qui ont déjà une ouverture internationale et qui ont envie de rester en Europe. Moi, je ne connaissais pas du tout et je me dis peut-être qu'il y a 6, 10, 15 ans, j'avais compris comment fonctionnent les institutions et le type de métier qu'on peut avoir dans cet univers-là. Voilà, ça m'aurait plu de creuser un peu plus, sans regret pour ma part, parce que je suis très, très heureuse de mon parcours, mais voilà, allez jeter un coup d'œil dans cet univers-là et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées pour creuser un peu plus et qui se questionnent, avec plaisir pour échanger en direct.
Trop bien. Est-ce que tu as une routine enfin, je sais que tu viens d'avoir un enfant, là, Balek, mais jusque-là ou même maintenant, est-ce que tu as une routine du matin, une routine du jour, des choses qui reviennent régulièrement?
Une routine, je suis vraiment très mauvaise pour garder des routines. Et comme tu l'as dit, le défi, on a deux enfants, alhamdoulilah. Donc, c'est.
Inch'Allah.
Ouais, on va dire que le. J'ai pas de routine comme ça qui est en tête. Il y a des choses que j'aime faire quotidiennement, mais que j'ai intégrées dans mon quotidien plus qu'une routine. Le vélo, par exemple. Mais j'ai pas, je me déplace toujours à vélo et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué sur la fin de ma grossesse. Mais non, j'ai pas de routine particulière. J'ai toujours aimé écrire un petit peu, mais je ne le fais pas suffisamment régulièrement pour prétendre que c'est une routine.
Vous avez une voiture?
Non. Non, non.
D'accord.
Et on a fait notre premier tour de vélo à 4 cette semaine,
Trop
avec
bien.
l'équipement qui va bien, mais oui, non, on n'a pas de voiture. Ouais. Au grand désespoir de mes parents, enfin de ma mère surtout, qui ne comprend pas pourquoi on ne se facilite pas la vie. Mais dans une grande ville, une voiture, ce n'est pas très utile. Donc on est à
C'est pas
vélo.
nécessaire. Ok. Est-ce que tu as des livres à recommander ou des références dans n'importe quel sujet?
Alors, comme ça, spontanément, moi, j'ai un livre qui me vient en tête, enfin, plutôt deux livres. Ça va être lié au voyage, parce que c'est vrai que là, avec le Covid, surtout, je dois dire que
Ça
ça me
manque.
manque pas mal. Oui, exactement. Et en fait, c'est des livres qui vont beaucoup parler de cette partie-là du monde qui, moi, me plaît. Donc, surtout si vous n'avez pas une vision sur ce que pouvait être l'Afghanistan ou le Pakistan dans les années 70, il y a L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est un livre qui est magnifiquement écrit, voilà, qui est plutôt littérature voyage. Et ensuite, j'ai envie de dire n'importe quel livre presque d'El Lamayar. En fait, on connaît beaucoup les voyageurs et les aventuriers hommes, type Nicolas Bouvier, c'est un peu un incontournable. Et puis, dans les aventurières. Donc les femmes, on en connaît un peu moins. On va connaître des gens comme Alexandra David-Neal, pour ceux qui la connaissent, mais Ella Maillard, elle est suisse. Et je pense que Oasis Interdite, ce serait peut-être un des livres que je conseillerais. Voilà,
Ok.
c'était l'époque du voyage par voie terrestre, pour le coup. Je pense qu'il a inspiré beaucoup, beaucoup de générations de voyageurs. Donc, ces deux auteurs-là et ces deux livres-là, je conseillerais.
Très bien, c'est deux auteurs que je ne connaissais pas, auteur et autrice. Ok, excellent. Et si les auditeurs souhaitent te suivre ou te contacter,
Oui,
tu as des
alors si.
channels. Ouais.
Oui, alors je poste peu sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment avec deux petits. Et là, je suis en congé maternité, donc j'essaie vraiment d'en profiter pleinement. Autrement, LinkedIn avec plaisir. Et comme réseau social, Twitter, si je suis assez active sur Twitter.
Excellent. Bah écoute, Esra, c'était un plaisir de partager avec toi. C'était super intéressant, surtout que le voyage me manque moi aussi et ça m'a donné les étoiles plein les yeux. Avec des destinations que je rêve de faire, comme la Mongolie notamment. Et là, ça me donne encore plus envie de les faire.
Merci beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'occasion d'en parler. Ça a été une grosse parenthèse 2015-2017, même si c'est très en lien avec tout ce que j'ai fait avant et ça a fait que renforcer. Mais voilà, quand on y était 2 ans, ça paraissait extrêmement court. Ça paraît long et court à la fois. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est en Belgique, à Bruxelles, et le temps passe très, très vite. Donc, si vous avez ce type de projet-là et que vous en avez la possibilité, faut pas hésiter.
Ne pas procrastiner.
Absolument pas. Ne faites pas comme moi, ne vous lancez pas dans un énième projet. Les projets peuvent attendre. Vraiment, je pense qu'il y a. C'est un peu ce que je dis par rapport au pèlerinage, au Hajj. Moi, c'est vrai qu'une fois de plus, j'étais dans une culture où on fait notre pèlerinage quand on est plus âgé. Et là, l'opportunité s'est présentée. Et puis, c'était un moment où, voilà, il fallait le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois comment ça se passe par rapport à la pandémie, je me dis, mais heureusement qu'on est parti plus tôt, en fait, enfin, plus tôt dans notre couple. Donc,
Oui.
voilà, il y a des voyages comme ça qu'on ne retarde pas. Et cela en fait partie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Malak, je te souhaite une
Merci
bonne fin de
beaucoup.
journée
Merci d'être ici.
et je te dis pourquoi pas avec Camille en couple en Belgique, un de ces quatre, si on est en chemin ou si vous venez en Asie. À
Avec
Singapour,
grand
n'hésitez pas à nous
plaisir.
contacter.
Oui, avec grand plaisir. C'est vrai que là, un peu juste entre toi et moi, hier, je suis allée regarder des sacs à dos de voyage. On est en train de regarder pour des vélos, partir en vélo en famille, en se disant, mais où est-ce qu'on pourrait aller? Ça commence un peu à nous titiller aussi, là, j'avoue. Ça commence à nous manquer. Mais
Avec
bon,
les
tiens,
beaux
en tout
jours qui
cas,
arrivent en
n'hésite pas.
plus.
Exactement, tout à fait ça. Bon, bah, porte-toi
Malaklafik.
bien et balaklafik
Toi aussi.
pour l'échange. Salam alaikum.
Ouais, comme salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.